Voilà, comme je le disais il y a quelques instants, on s'entretient à l'instant avec Ray Lalonde, que vous pouvez suivre sur Twitter, Ray Lalonde, expert en business et marketing du sport, collaborateur pour RDS et pour l'ensemble du réseau Cogeco. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci de prendre quelques minutes pour nous ce soir. Très apprécié. D'abord, Ray, je débuterai, si tu me permets, avec la fameuse expérience du partisan qui a été mentionnée par Jeff Molson et Marc Bergevin il y a quelques jours dans leur point de presse. J'aimerais ça, pour le bien de nos auditeurs ce soir, que tu nous décortiques l'expérience client dans un amphithéâtre de la Ligue nationale, dans un stade du baseball majeur ou encore dans un stade de la NFL. Pour vous, les experts de marketing, vous pensez à quoi quand vous parlez de l'expérience client?
C'est une excellente question, Dan, puis c'est un sujet qui est très vaste parce que on parle du moment que le client, consommateur, partisan, jeune ou plus vieux, décide de s'engager émotivement avec une équipe et de consommer, si tu me permets. C'est-à-dire, il suit les résultats sur l'Internet, il regarde les matchs à la télé, il regarde il écoute un match à la radio, par exemple. Il se parle de tout ça à longueur de journée avec ses amis ou avec ses confrères au travail. L'expérience qu'une équipe doit offrir, ça débute au moment où il y a une certaine cultivation du partisan pour l'emmener à s'investir émotivement dans son équipe. Donc, on prend pour acquis que le partisan est intéressé à suivre les résultats et éventuellement, on veut l'intéresser à regarder les matchs à la télé pour les audiences et acheter des billets. Alors, quand le partisan se rend jusqu'au point où il achète un billet pour son équipe préférée, que ce soit à la maison, que ce soit sur la route, peu importe, ben, l'expérience commence à l'achat du billet. Est-ce que ça s'est fait sur le site Internet de l'équipe? Est-ce que ça s'est fait sur un autre site qui vend des billets? Par exemple, le marché secondaire, on va en parler tout à l'heure concernant Toronto. Est-ce que ça se fait aussi au guichet de l'amphithéâtre, peu importe le stade? Mais là, il y a déjà une certaine forme d'expérience. Le terme utilisé en anglais, Dan, c'est le « touch point ».
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a un contact. Il y a un contact entre le client consommateur et le partisan. Et là, ça débute. Mais plus on s'approche du match, plus il y a un degré d'excitation, un degré d'intensité comme quoi on voit venir le match, on est intéressé, on est un peu... il y a de l'engouement parce que on s'approche de l'heure du match. Et là, le jour du match, on arrive en voiture ou en métro, ou en autobus, en transport en commun, et on arrive près de l'aréna ou du stade, puis là, on sent l'énergie autour d'un match de hockey, de football, de basketball. Ça se poursuit déjà, l'expérience d'un client. Et évidemment, on arrive à la porte, on remet nos billets, ou via électroniquement avec notre téléphone, et ainsi de suite. Il y a des contacts qui se font entre les gens qui travaillent pour l'équipe et les partisans qui viennent au match, parce que c'est pas juste, ce que je suis en train de dire, Dan, c'est que c'est pas juste le résultat sur la glace ou le moment du jeu.
Okay.
C'est tout ce qui précède et tout ce qui suit de la personne qui vend un hot dog jusqu'à la personne qui est le placier qui va te dire à quel endroit t'asseoir et évidemment tous les éléments de présentation. Alors, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure, mais je pense que ça englobe l'expérience totale. Alors, on en parle beaucoup ces temps-ci parce qu'on voit ce qui se passe à Vegas, à Winnipeg et on a été particulièrement déçus des efforts faits cette année par les Canadiens.
OK. Quand... Tu parles de l'expérience client, ça débute quand on achète le billet. À un certain moment donné, il y avait des sièges vides dans certains arénas de la Ligue nationale. Et les gens qui s'offusquaient de ça, d'autres leur disaient, ben non, hey, stresse-toi pas, quand même qu'il y a des sièges libres à Dallas ou ailleurs, c'est pas si grave. Les équipes de la Ligue nationale, maintenant, ils font pas leur argent avec la vente de billets, ils font leur argent avec les produits dérivés, avec les produits de télé. Mais ça m'a toujours agacé, cette théorie-là, Ray, puis je veux t'entendre là-dessus ce soir parce que ce que tu viens de nous dire, c'est que ça débute avec l'achat du billet, la personne arrive à l'événement, puis là, elle peut acheter soit une bière, soit un chandail, soit un souvenir pour le mousse de 5-6 ans qui est à la maison ou qui est là, présent au match. Je me dis, on peut pas avoir autant de sièges libres. C'est avec des gens dans les amphithéâtres et dans les arénas qu'on va réussir à vendre encore plus de produits dérivés.
Ouais, ben, premièrement, la précision, c'est qu'au hockey de la Ligue nationale, les ventes de billets sont déterminantes. Aucun des autres sports majeurs, NFL, NBA, Major League Baseball, ne dépend autant des résultats de vente de billets, donc des revenus en génération de billets ou de loges, que le hockey. Donc, c'est faux de penser que les équipes ne sont pas préoccupées lorsque les gens ne sont pas dans les gradins. Bon, il y a toutes sortes de raisons. Ça se peut que le billet ait été vendu puis la personne ne s'est pas présentée. Je t'avouerais, Dan, que c'est quasiment plus inquiétant. Qu'un billet soit vendu à quelqu'un puis que la personne a décidé de ne pas se présenter au match et a absorbé le coût des billets, c'est quand même incroyable. Alors, ça, ça veut dire qu'on a atteint un niveau de désengagement avec le partisan. Et là, il y a beaucoup de théories là-dedans, mais à la fin, il y a c'est une business de divertissement, et puis il faut vendre, il faut générer le maximum de revenus, il faut gagner, mais on gagne pas tout le temps. Et pendant ce temps-là, il faut qu'on gère le reste. Alors, quand il y a quelqu'un qui se présente pas à un match, on devrait se soucier immédiatement de la raison ou de la cause.
OK. Tantôt, tu as parlé du Canadien. Le Canadien, lors de son dernier point de presse, a dit « Pour imprimer les billets de saison, on vous chargera plus. » Évidemment, il y a eu un tollé cet hiver, entre autres quand Réjean Tremblay en a parlé dans le journal. Est-ce que le Canadien est allé trop loin dans ce département-là?
Oui, bien l'année passée, le Canadien a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Au lieu de charger les gens pour faire imprimer les billets, ceux qui ne voulaient pas les billets électroniques dès la première année, les Canadiens auraient été mieux de donner un rabais aux gens qui souhaitaient faire la sélection de billets électroniques. C'est le même message, Dan. C'est juste que c'est positionné différemment. Et là, c'est à l'avantage du partisan qui pense « Wow, l'équipe est généreuse. J'y vais avec les billets électroniques. » Ben non. Au lieu de ça, ils ont forcé les gens à abandonner les billets papier. Pour certains, Dan, le billet papier, c'est le souvenir impérissable d'une expérience lors d'un match. Alors,
oui.
Tu veux forcer les gens, ça, c'est toi qui vas écoper. Les Canadiens ont écopé durement grâce à cette erreur de jugement-là. C'est aussi simple que ça.
OK. À Toronto cette semaine, Ray Fauchois honnête, là, j'aime ça faire de la radio, puis j'adore ma ville de Québec, là, mais sincèrement, j'aurais aimé ça être en Ontario cette semaine, parce qu'à Toronto, il y avait un programme double des Blue Jays, il y avait des matchs des séries des Leafs, il y avait des Raptors qui jouaient en série, il y avait un match de la MLS. Là, je te dirais que mes soirées auraient été plus agréables qu'à Québec. Le marché torontois, évidemment, les gens vont dire, ben Dan, tu vis dans une ville de 800 000 habitants, puis il y en a 7 ou 8 millions d'habitants à Toronto. Je comprends très bien. Mais le marché des équipes de Toronto, il y a de quoi de fascinant autour de ça aussi.
Premièrement, les équipes sont très bien gérées. Deuxièmement, ils sont sur une poussée assez fructueuse. Oublie pas, les Argos ont gagné la Coupe Grey. Toronto FC a gagné la MLS Cup. Ils sont en finale de la CONCACAF. Et ensuite, tu as mentionné Raptors, Leafs et Blue Jays. Qui les Blue Jays, encore une fois, cette année, une belle équipe dans une division très forte avec les Yankees et les Red Sox. Les Blue Jays, depuis quelques années, ça va quand même assez bien. Bon, sachant ça, là, c'est difficile d'imaginer des situations comme ça dans d'autres villes au Canada parce qu'il n'y a aucun autre marché métropole de cette taille-là où il y a autant de gens, une population aussi diversifiée et autant d'argent dans l'économie qui pompe de l'argent dans ces équipes-là. Alors, Montréal n'est pas près de Toronto à ce niveau-là et Québec non plus. Bon, si on avait une autre équipe à Québec, une autre équipe à Montréal au baseball, déjà, on aurait un autre niveau de compétition qui ferait en sorte que tout le monde serait meilleur grâce à ça. On n'aurait pas le monopole que les Canadiens ont actuellement. Mais c'est sûr qu'à Toronto, pour avoir été sans Coupe cette année depuis 50 ans, ça me semble évident que les Bruins vont les battre. Je veux pas les compter pour battre ça encore, mais c'est quand même un bel avenir qui attend les Maple Leafs comme équipe. Et les Raptors, à mon avis, peuvent aller très loin cette année. Il y a beaucoup de compétition dans la NBA aussi. Mais en tout cas, c'est bon d'être un fan de sport à Toronto, comme tu l'as dit. Et il faut donner crédit à la gestion des équipes. Il faut donner crédit au fait qu'ils ont bâti correctement. Ils ont souffert beaucoup. Et là, ils ont des bonnes années devant eux.
OK. Toi et moi, on est encore très jeunes. Donc, est-ce qu'on va vivre assez longtemps pour voir une deuxième équipe de la Ligue nationale dans le marché de Toronto?
Je pense que oui. Mon opinion, Dan, là, honnêtement, et puis ça n'a rien à voir avec Québec. Moi, je serais le premier à lever la main pour contribuer, aider de toutes les façons possibles une équipe à Québec. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue d'affaires, comme les autres ligues. Les gens sont là pour faire de l'argent. Les propriétaires actuels, les gouverneurs, sont là pour continuer à valoriser leur propre franchise. Bon, succès à Vegas inespéré, parfait. Ça ne va pas dire que ça va toujours durer comme ça. Là, on sent que Seattle aura la prochaine équipe. Il y a encore un marché à Houston qui est intéressé avec un autre 5-6 millions d'habitants. Et à mon avis, il y a une ville comme Québec qui attend son équipe, qui est patiente. Mais il y a Toronto aussi qui est une mine d'or pour la consommation de hockey. Et il y a forcément, à la taille de Toronto, avec un seul amphithéâtre, il y a de la place pour un deuxième amphithéâtre, pour une deuxième équipe. Ça ne dérangerait même pas le statut des Maple Leafs, à mon avis. Et les gens achèteraient, consommeraient, paieraient, et ça deviendrait une autre équipe rentable. Alors, Gary Bettman est dans la business de rentabiliser ses propriétaires. Lui, il veut garder sa job, il veut être payé le maximum, il veut que les propriétaires soient heureux de son travail. Sa job, c'est de continuer à pousser des franchises où il y a des opportunités. Je pense que dans notre vie, Dan, on va avoir une autre équipe à Toronto.
OK, je veux parler un peu de baseball avant de te laisser. Je veux qu'on s'intéresse aux Marlins de la Floride, qu'on appelle maintenant les Marlins de Miami, du nouveau propriétaire Derek Jeter. Mais juste avant, si j'ai bien lu cette semaine, tu as tweeté une information à l'effet que Portland, Oregon, il y a des gens là-bas qui s'intéressent et qui ont même acheté des terrains, je pense, pour bâtir un stade. Est-ce qu'ils veulent une équipe du baseball majeur?
Oui. Je te dirais que parmi les villes que Rob Manfred mentionne, le commissaire du baseball depuis quelques années, Dan, il a parlé souvent de Montréal, il a parlé souvent de Mexico, parce qu'il aime l'idée de l'internationalisation, puis déjà, Canada-Mexique, ça serait deux marchés internationaux. Il a parlé aussi de d'autres villes qui sont actuellement inoccupées par le baseball majeur. Les deux en liste, là, c'est Portland en Oregon, puis Charlotte en Caroline du Nord.
Okay.
Alors, il y a des groupes qui travaillent très fort de ce côté-là pour essayer de se positionner comme étant des villes candidates. Bon, là, je viens de t'en nommer quatre. Il n'y en aura pas quatre nouvelles.
Non.
Puis là, la possibilité de relocalisation des A's d'Oakland est de moins en moins évidente, c'est-à-dire qu'ils sont en train de trouver une solution pour un nouveau stade. Et la même chose à Tampa Bay pour les Rays. Alors, je ne crois pas au déménagement d'une de ces deux franchises-là. Personnellement, là, si tu me demandes mon humble opinion sur le baseball, je pense qu'on parle d'expansion. Et il y a quatre villes. Et je pense que Manfred serait intéressé à deux de ces quatre-là. Et ce que j'ai tweeté cette semaine sur Portland, c'est que ben, ils ont un projet de acheter le terrain, bâtir un stade, la taille que le baseball recherche. L'Oregon, je te rappelle, là, c'est le château phare de Nike,
oui.
De toutes ces compagnies-là comme Starbucks, comme Boeing, comme Microsoft, comme Adidas. C'est comme Seattle. Portland, Oregon, c'est dans la même région. Il y a beaucoup d'argent et c'est bon pour l'aspect géographique. Alors, c'est une vraie possibilité que Portland soit une ville candidate. Mais là, la décision demeure celle de Rob Manfred.
OK. Giancarlo Stanton gagne 25 millions par année. Il joue maintenant avec les Yankees parce que Derek Jeter, quand il est arrivé à Miami, il a dit « Wow, 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 il a beau frapper des circuits, on ne veut pas le payer aussi cher aux deux semaines, on l'envoie dans une autre équipe. » Au total, la masse salariale des Marlins, c'est 21 millions, alors que des gars comme Clayton Kershaw gagnent 32 ou 33 ou 34 millions par saison. Ça complexifie, je pense, la donne pour les Marlins d'essayer d'être une équipe compétitive. Mais ça, Derek Jeter, ça n'a pas l'air d'être dans ses priorités. Il dit, s'il y a 6 000 personnes dans les estrades, on va dire 6 000. Encore là, parce que tu es un expert, je veux t'entendre sur les gens qui donnent des foules, puis on regarde la foule, puis on se dit, ben non, ça se peut pas, il n'y a pas ça dans les estrades. Dans quelle mesure ça va changer, ça?
Ben, moi, je pense que Derek Jeter fait la bonne chose. Je pense qu'il est honnête et transparent. Il sait que son équipe doit rebâtir. Les Marlins ont énormément de travail pour se développer une culture dans le sud de la Floride. Cependant, le baseball est très populaire en Floride. C'est juste que les gens n'ont pas encore, malgré une Coupe de Série mondiale, malgré des joueurs importants, et là, Derek Jeter qui vient acheter l'équipe, ils n'ont pas encore adopté cette équipe-là. Ils ont même un stade flambant neuf de quelques années seulement. Le défi des Marlins, c'est d'admettre qu'on recommence à zéro et on rebâtit. Mais en disant que 6 000 personnes, puis c'est 6 000 personnes qui ont acheté des billets, au moins, ils se laissent une chance avec une opportunité de grandir et de croître leur affaire. En disant les chiffres qui sont falsifiés, à la fin, il n'est même pas honnête avec son organisation. Alors, je pense qu'il fait la bonne chose. Il y a encore beaucoup d'équipes qui vont te dire, ben, on a distribué des milliers de billets, les gens sont pas venus, mais en tout cas, c'est le total de l'assistance. Ouais, OK, mais c'est vrai, comme tu dis, les gens sont pas fous, ils regardent ça d'un gradin, puis l'aréna ou le stade est à moitié vide, puis on donne une salle comble, par exemple. Alors, je pense que Derek Jeter fait la bonne chose. De A à Z, il recommence à rebâtir cette organisation-là, et il faut lui donner le temps. On n'aimera pas toutes ces décisions. Puis à Miami, ils sont pas contents d'avoir laissé partir Stanton. Mais Stanton peut pas entrer dans la masse salariale des Marlins avec l'argent qu'il rentre comme équipe-là. Un jour, ils vont pouvoir se repayer des joueurs comme ça. Mais là, il doit recommencer et repopulariser cette équipe.
Parfait. Un gros merci, Ray. Bon week-end à toi.
Merci, Dan. Au plaisir.
À bientôt, Ray Lalonde, que vous pouvez suivre sur Twitter. Toujours intéressant de l'entendre en onde, mais de le lire également sur Twitter. L'adresse Real Ray Lalonde, c'est un expert du marketing. Il a longtemps travaillé pour le Canadien de Montréal, maintenant collaborateur pour RDS et le réseau Cogeco.